Voilà, j'ai retrouvé ma voix aujourd'hui. Presque. Encore un petit peu, mais bon. Ça va quand même mieux que la semaine dernière. La semaine passée, on a commencé à parler du livre des psaumes. Et bon, j'ai dit, on va pas évidemment les faire tous, il y en a 150. On a regardé la structure. Pas forcément la structure telle qu'elle apparaît à l'heure actuelle. On a vu, effectivement, il y a une structure en 5 livres des psaumes. Mais en réalité, ces 5 livres, c'est une structure qui a été plaquée, on va dire, ultérieurement. C'est pas la façon dont le livre des psaumes s'est construit petit à petit. On a expliqué ce phénomène de poupée russe où, en fait, il y a des ensembles de psaumes, des petits corpus qui ont été regroupés, juxtaposés, encadrés. J'ai donné des exemples avec, par exemple, le psaume 2 et le psaume 89 qui sont en encadrement, le psaume 1 et le psaume 119 qui sont un encadrement. On a parlé du psautier Éloïste. On a parlé des psaumes de David, on a parlé des prières, les psaumes 51, 72, etc., etc. On a parlé des doublons, le fait que le psaume 14 et le psaume 53 sont identiques. D'autres exemples également, le psaume 70, en fait, qui est un petit psaume de 6 versets seulement. En fait, ce psaume 70 se retrouve dans le psaume 40, au verset 14 à 18. Donc il y a d'autres exemples comme ça où on voit clairement la construction du livre des psaumes. Comment un petit psaume de quelques versets a été soit simplement repris tel quel ailleurs. On l'a vu les cas de modification du changement du nom pour Dieu. Tantôt on l'appelle Yahvé, tantôt on l'appelle Elohim. Certains psaumes sont intégrés et on ajoute d'autres versets. On combine parfois, il y a un psaume qui est en fait la combinaison de deux autres psaumes. Le psaume 108 par exemple. C'est en fait, si vous lisez le psaume 108, la première partie du psaume 108, en fait, c'est des versets qu'on retrouve dans le psaume 57, les versets 8 à 12 du psaume 57. Et ensuite, la deuxième partie du psaume 108, ce sont d'autres versets, c'est les versets 7 à 14 du psaume 60 cette fois-ci. Voilà, donc, on a regardé, donc on s'est intéressé comme ça à la formation du livre des psaumes. Quand vous regardez les manuscrits des psaumes à Qumran, on se rend compte que l'ordre et la liste des psaumes n'est pas stable. Donc ça veut dire que cette composition, elle se fait jusque tard. Au tournant de notre ère, il y a une quarantaine d'exemplaires du livre des psaumes à Qumran. Il n'y a pas deux exemplaires qui soient identiques. Vous avez parfois des psaumes qui sont totalement absents, qui sont ailleurs. Des psaumes, au contraire, qui sont présents dans un psautier à Qumran, alors qu'ils n'ont pas été retenus dans le canon de la Bible hébraïque. Par exemple, le psaume 151. Qui est bien attesté à Qumran, alors qu'en fait, on ne le trouve pas dans la Bible hébraïque, on s'arrête à 150, mais on va le trouver dans des Bibles grecques, notamment donc les Bibles de l'Église grecque orthodoxe, également le psaume 153, 154, etc., qui finalement n'ont pas été retenus dans le canon de la Bible hébraïque. Donc, ça nous montre à quel point le livre des psaumes en lui-même a une histoire riche, complexe, d'origines diverses, des corpus différents, des milieux yavistes, des milieux éloïstes, on combine tout ça. Il y a des progressions thématiques. J'ai mentionné la semaine dernière un autre bloc, les psaumes 120 à 134, qui sont des chants pour les montées. C'est-à-dire, alors les montées, c'est soit les marches d'un escalier, par exemple, si on gravit les marches d'un temple, d'une ziggourate ou quelque chose comme ça, ou alors si on gravit la pente d'une montagne, si on fait un pèlerinage. Enfin, dans tous les cas, ce sont des chants qui avaient vocation à être chantés à des moments particuliers ou dans des processions particulières. Et puis, j'avais également mentionné les derniers psaumes, psaumes 146 à 150, qui commencent et finissent tous par le même mot. En hébreu, Alléluia, qui a donné en français Alléluia. En hébreu, ça veut dire louer Yah. Yah étant un diminutif de Yahvé. Et donc, vous pouvez regarder, chacun de ces psaumes commence et finit par ce mot-là. Évidemment, ce bloc de psaumes en lui-même constitue une sorte de conclusion à l'ensemble du livre des psaumes. De la même manière que le psaume 1 et une sorte d'ouverture, une porte d'entrée dans cet univers des psaumes, et au-delà des psaumes, une porte d'entrée dans l'ensemble de la révélation divine, puisqu'il est fait mention de la Torah. On avait vu dans le psaume 1 et le psaume 119, ces deux psaumes qui forment un encadrement, mettent en avant l'amour pour la Torah. Bienheureux l'homme qui met son plaisir dans la Torah, qui la médite, qui la redit, etc. etc. La Torah, il ne faut pas simplement la comprendre comme étant le Pentateuque, la Torah de Moïse. Le mot Torah, ça veut dire instruction, enseignement en hébreu. Donc c'est tout l'enseignement qu'on reçoit de Dieu. C'est toute la révélation divine. Donc c'est l'ensemble du corpus des Écritures, pourrait-on dire. Alors, je ne vais pas continuer beaucoup sur le livre des psaumes aujourd'hui, simplement, j'avais commencé à parler la dernière fois des différents thèmes qui sont abordés. Et je vous avais dit, en conclusion de la semaine dernière, en disant finalement, quelle que soit votre humeur, vous allez pouvoir trouver un psaume qui va correspondre à votre humeur. Et c'est ça qui fait que le livre des psaumes est riche, c'est ça qui fait qu'il est intéressant, c'est ça qui fait qu'on peut le lire tout le temps. Alors là, par exemple, on a vu les psaumes 146 à 150, même psaume 145, sont des psaumes de louange. Alléluia. Donc on va louer Dieu, on va louer Dieu de toutes les manières possibles, tout le monde va louer Dieu, toute la création, on va le louer en musique, avec des instruments de musique, avec des danses, etc. Enfin bref. Donc, il y a ce refrain, on va louer, louer, louer. En réalité, c'est pas forcément le thème qu'on va retrouver dans l'ensemble des psaumes. On va retrouver finalement dans le livre des psaumes pratiquement tous les thèmes théologiques fondamentaux de la Bible. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire si on voulait faire une théologie des psaumes, en fait ça viendrait à faire une théologie pratiquement systématique. Sauf qu'on n'est pas dans un genre littéraire dogmatique, c'est pas comme une épître où Paul va dire « nous savons du reste frère que » et hop, il nous lâche un gros pavé avec une vérité théologique fondamentale. Là, c'est de la théologie subjective. Voilà l'expérience que je fais et voilà ce que je comprends. Donc on va insister sur tel ou tel aspect du rapport à Dieu. Alors il y a la louange bien sûr, mais il y a aussi l'intercession, il y a la demande, il y a l'appel au secours, il y a des versets, le psaume 7 verset 2, sauve-moi. Donc on appelle à l'aide, on appelle au secours. Et puis évidemment on va décrire les vertus divines, la puissance divine. À chaque fois de façon poétique, on va se mettre en opposition, on va avoir une dialectique. Psaume chapitre 10, verset 4, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. Autrement dit, le méchant se moque de Dieu en disant Dieu est absent, il ne fait rien, il ne punit rien, etc. Et puis en fait, évidemment, on va répondre non, c'est pas le cas. Donc on va réitérer sa confiance. On va présenter Dieu sous différents attributs, différents aspects. Cette littérature poétique ouvre la possibilité à des représentations métaphoriques, symboliques et notamment anthropomorphiques. Psaume 18, par exemple, très intéressant, on a une représentation d'un dieu guerrier. Et ça, c'est une représentation qui est bien connue dans la littérature du Proche-Orient ancien et même l'iconographie du Proche-Orient ancien. Si vous regardez des stèles, des bas-reliefs, eh bien, vous verrez ce type de représentation dans le psaume 18. On insiste sur le fait que Dieu est fort, verset 2, « Ma force, le Seigneur est mon roc, ma forteresse ». Mais regardez un peu plus loin, au verset 7, de son temple il m'entend, les appels au secours que je lance vers lui parviennent à ses oreilles. Donc c'est intéressant parce qu'on a une localisation précise de Dieu, il est dans son temple. Où est Dieu? Il n'est pas omniprésent, il est dans son temple. Et c'est depuis le temple qu'il entend. Et il a des oreilles. Verset 9, de la fumée montée de ses narines. Ah, donc il a des narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Il a une bouche. Verset 11, il était monté sur un kéroub et il volait. Alors les kéroubs, c'est les fameux chérubins. Vous en avez des représentations en Mésopotamie notamment, et si vous allez dans des beaux musées comme le musée du Louvre, vous avez droit à des espèces de sphinx, si vous voulez, une sorte de lion avec parfois une tête humaine, qui ont des ailes. C'est ça un chérubin. Et il est donc, il chevauche un chérubin, il vole, il plane sur les ailes du vent. Verset 14, le Seigneur tonna dans le ciel, le Très-Haut fit retentir sa voix. Donc, là encore, il y a une localisation. Dieu, il est dans le ciel, il fait entendre sa voix. Verset 15, il lance ses flèches. Alors, c'est là encore très intéressant. Si vous prenez la représentation du dieu de l'orage, notamment le dieu de la guerre et le dieu de l'orage, on le voit chevauchant les nuées ou chevauchant les montagnes. Ça, il est représenté comme ça, un peu de profil. Et puis, il lance les éclairs comme ça. Donc, quand vous lisez ces textes, vous avez exactement la représentation qui était connue au Proche-Orient ancien, et ce, dès le deuxième millénaire. Sur un site, par exemple, comme Ougarit, qui est donc à quelques centaines de kilomètres au nord d'Israël, on est en face de Chypre, si vous voulez, on a une belle stèle du XIIIe siècle avant notre ère, on a des statuettes également, où là encore, il y a le dieu guerrier qui lance un éclair, qui lance une flèche, comme ça, une petite statuette avec en plus une tête, une tiare en or, etc. Tout ça, c'est au Louvre, hein, donc vous pouvez y aller, enfin, on peut y aller, si vous voulez, une fois. Et donc, ça, c'est exactement les représentations qu'on a. Donc, ça montre bien le contexte culturel dans lequel ces psaumes sont rédigés. Et donc, on voit ces caractéristiques guerrières. Verset 35, il enseigne mes mains à la guerre, mes bras tendent un arc de bronze, tu me donnes le bouclier de ton salut, etc. Verset 40, tu me ceins de vaillance pour le combat. Donc, on a vraiment cette représentation du dieu de la guerre. Alors, bon, c'est plutôt Baal, en fait, le dieu de la guerre dans la mythologie du Proche-Orient ancien. Mais là, en l'occurrence, tout ça, c'est attribué à Yahvé. Alors, il y a des psaumes qui s'intéressent à la thématique du roi, par exemple, psaume 21, 20-21, etc. Mais on peut changer de façon très brusque de style. Regardez chapitre 22, donc psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors, il faut savoir, parce que juste avant, on disait, voilà, Dieu est très grand, il est très fort, il me forme, c'est mon roc, ma forteresse, je ne crains rien. Et puis, deux chapitres après, c'est tout le contraire. Dieu m'a abandonné. Pourquoi n'entends-tu pas mes cris ? Donc, avant, on disait que quand je parle, Dieu, il entend, ses oreilles entendent, il répond, etc. Deux chapitres plus loin, pas du tout, il n'entend pas. Il fait rien. Mon Dieu, je crie le jour, verset 3, tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence, etc. etc. Donc, on voit le changement brutal de discours qui correspond au changement, à la perception. C'est-à-dire qu'on est dans du subjectif. C'est l'expérience du psalmiste, celui qui rédige le psaume. Voilà ce qu'il ressent à un instant T. Donc c'est profondément humain. Alors, soit dit en passant, ce verset est repris dans le Nouveau Testament. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est cité dans le Nouveau Testament, c'est les paroles de Jésus sur la croix. Jésus sur la croix dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il cite en fait un psaume. Et c'est, là encore, on est dans le côté subjectif. Voilà ce que je ressens à l'instant T. À cet instant précis, je me sens seul, abandonné. Alors, ce n'est pas la seule allusion. Donc ça, c'est dans Matthieu 23. C'est Matthieu 27, pardon. Matthieu 27, parce que Matthieu 23, c'est les malédictions. Donc, c'est Matthieu 27, Jésus sur la croix. On retrouve ça d'ailleurs un peu plus loin, verset 19. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. C'est exactement ce qu'on retrouve là encore dans le même chapitre de Matthieu 27. Donc vous voyez, ces changements, on peut trouver dans les psaumes une affirmation et son contraire. Donc c'est important d'un point de vue théologique, quand on lit le livre des psaumes et qu'on veut utiliser le livre des psaumes pour une argumentation théologique, attention, c'est très régulier, je pourrais multiplier les exemples, d'ailleurs bon, je suis allé un peu vite, mais on n'a pas le temps de tout commenter. Mais regardez par exemple, je reviens un peu en arrière, psaume chapitre 4, verset 9, on nous dit « Aussitôt couché, je m'endors en paix ». Et puis, vous tournez votre page, chapitre 6, verset 7. « Chaque nuit, je baigne mon lit de mes pleurs ». Bon, alors, il faut savoir, est-ce qu'aussitôt couché, il s'endort en paix ou est-ce qu'au contraire, il baigne son lit de ses pleurs ? Vous voyez, on peut dire une chose et son contraire parce que ça correspond aux différentes, à l'expérience, en fait, à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent. Et je trouve que c'est intéressant comme façon d'envisager la théologie, une façon beaucoup plus humaine et au niveau de notre perception, plutôt que d'affirmations un peu déshumanisées. Alors, je continue, je vais juste faire quelques petits commentaires, et puis ensuite on va continuer. Il y a des psaumes de repentance également. L'autre type de thématique qu'on peut retrouver, c'est le rapport au péché, au mal et à la repentance. Le psaume 51... Et le premier psaume d'une série, les psaumes 51-72 sont les prières de David. Et donc ce psaume est un psaume de repentance. Verset 3, « Ô Dieu, fais-moi grâce, efface mes transgressions. » Verset 4, « Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions. » Donc tout le psaume 51 va développer une prière de repentance, de demande de pardon. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme genre littéraire ? Il y a énormément de choses à dire. Alors, on a des psaumes historiques, par exemple. Un autre genre, une autre thématique qui va être développée, c'est les psaumes historiques, c'est-à-dire des psaumes qui vont faire des synthèses historiques. Psaume 78, par exemple. Le psaume 78... raconte finalement toute l'histoire du peuple d'Israël, en passant parfois, alors on raconte le schisme, les deux royaumes, parfois on parle évidemment des patriarches, etc., etc. Les psaumes sont écrits sur des très longues périodes de temps. On voyait le psaume 18 tout à l'heure, on voit des représentations qui sont caractéristiques déjà au deuxième millénaire et au début du premier millénaire. Donc ça peut être des psaumes qui sont très anciens. On a d'autres cas de psaumes qui manifestement se placent avant la période de centralisation. Vous voyez, je discutais tout à l'heure entre des psaumes yavistes ou éloïstes. On voyait que vous avez des périodes différentes. Et le psaume 82, par exemple, nous parle de l'assemblée des dieux. Donc on n'est clairement pas dans la perspective, on n'est pas à l'époque tardive où finalement il n'y a qu'un seul dieu et les autres n'existent plus. Au contraire, là, dans le psaume 82, il y a l'assemblée des dieux et qui est présidée par le dieu d'Israël. Alors le psaume 89 est un psaume messianique, comme je disais, comme le psaume 2. Le psaume 2 et 89 sont des psaumes qui insistent sur l'idéologie messianique et plus précisément davidique. Vous avez alors le psaume 105 est à nouveau un psaume historique. Psaume 106 également. Psaume 107, vous voyez, vous avez une série de psaumes historiques. Le psaume 109, c'est intéressant. Alors là, on a un psaume imprécatoire. Là, c'est encore une autre thématique, c'est-à-dire que là, on se plaint de ses ennemis. Alors il y a plein de psaumes où David, on nous raconte que c'est David qui est poursuivi par Saül, et puis il demande d'être sauvé de ses ennemis, etc. etc. Donc ça, on est habitué à avoir la mention des ennemis dans les psaumes. Mais il y a des psaumes qui vont quand même très loin, qui ne demandent pas simplement à être délivrés des ennemis. Regardez le psaume 109. Là, pour le coup, on souhaite le mal de ses ennemis. On ne veut pas simplement être délivré de ses ennemis, on va plus loin. « Confie-le à un méchant, qu'un adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit condamné, que sa prière passe pour un péché. » Verset 8, « Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. » Donc on souhaite sa mort. Verset 9, « Que ses fils deviennent orphelins et sa femme veuve. » Verset 10, « Que ses fils soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils aillent quémander loin des ruines de leur demeure. » Donc on souhaite le mal des fils également. Verset 11, « Que le créancier jette le filet sur tout ce qui lui appartient. Que les étrangers pillent le produit de son travail. » Que personne ne lui conserve sa fidélité, que personne ne fasse grâce à ses orphelins, que ses descendants soient retranchés, que leur nom soit effacé dans la génération suivante, que la faute de ses pères soit évoquée devant Yahvé. Vous voyez, c'est terrible de souhaiter ce genre de choses. Et évidemment, c'est en contradiction avec Jésus qui va dire, si on vous frappe sur la joue droite, tendez-la à la joue gauche, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, etc. Là, on ne bénit pas du tout ceux qui nous maudissent, au contraire, on les maudit. Et là, ça montre bien l'état d'esprit dans lequel est le rédacteur de ce psaume à cette époque-là. Un certain nombre de psaumes sont des psaumes alphabétiques, c'est-à-dire qu'un verset commence successivement par une des lettres de l'alphabet. Donc ils sont alphabétiques, il faudrait peut-être dire alephbétiques, puisque alphabet, le mot français alphabet vient de alphabeta, c'est du grec, alors qu'en hébreu, c'est pas alphabeta, c'est alephbet. Donc des psaumes alephbétiques. Il y en a un certain nombre, hein. Les psaumes 9 et 10 ensemble sont alphabétiques d'ailleurs, c'est intéressant, ça veut dire qu'on n'envisage pas, ces deux psaumes qui sont présentés comme étant pourtant deux psaumes différents, en fait il faut les considérer comme un seul psaume, mais vous avez également le psaume 25, le psaume 34, le psaume 111, 112, 119, etc. Voilà, vous avez les psaumes 37, donc voilà, vous avez tout un tas de psaumes alphabétiques dans la Bible hébraïque. Le psaume 119 également, hein, qui est très long, qui est le plus long des psaumes, et qui vient faire un encadrement avec le psaume 1. Également le psaume 145, si je saute les psaumes sur les montées, le psaume 145 est également un psaume alphabétique. Voilà, donc je m'arrête là pour le livre des psaumes. J'ai vu la semaine dernière la structure, aujourd'hui j'ai parlé un peu des différentes thématiques qu'on va trouver. On ne peut pas faire un commentaire complet de chacun des 950 psaumes, mais là, vous avez un peu une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous lisez le livre des psaumes. Alors j'enchaîne avec le livre de Job, sur lequel on va passer un peu plus de temps, parce qu'il est, il faut bien le reconnaître, plus complexe, plus difficile d'accès que les psaumes. Les psaumes, on peut les lire très facilement, un enfant peut lire des psaumes. Le livre de Job, pour le coup, c'est quand même autre chose. Le livre de Job, c'est en fait c'est un traité philosophique. C'est un traité philosophique qui prend la forme d'un dialogue. Alors c'est un genre littéraire, c'est une façon d'écrire qui est connue dans l'Antiquité. La rhétorique veut qu'on ait des interlocuteurs qui peuvent être virtuels d'ailleurs. Hein. C'est un genre que vous retrouverez dans le, y compris dans le Nouveau Testament, dans les épîtres pauliniennes, par exemple Paul dans l'épître aux Romains, imagine un interlocuteur qui lui reproche des choses, il répond, etc., etc. Donc le côté dialogue, c'est la façon de mettre en évidence, de développer, d'approfondir des questions philosophiques. Alors, quelle est la question développée dans le livre de Job ? C'est la question de la souffrance. Job souffre. Et Job cherche à donner un sens à cette souffrance. Alors, c'est difficile pour nous de ne pas être sensible à ce genre de questions. Évidemment, ça fait toujours écho à notre propre souffrance, notre propre vécu. On souffre tous. Et on essaye évidemment de donner un sens à cette souffrance, de comprendre pourquoi on souffre, pour quelle raison. Et surtout, quand on croit que Dieu existe. Si on croit qu'il y a un Dieu qui existe et que ce Dieu règne, il est souverain, pourquoi est-ce qu'il permet cette souffrance ? Est-ce que c'est lui qui la provoque ? Est-ce qu'il est incapable de l'en empêcher ? Est-ce qu'il ne veut pas l'en empêcher, etc. Donc finalement, quel est le rapport ? Comment donner sens à la souffrance que je peux vivre et comment intégrer cette souffrance dans un cadre de foi. Donc le livre de Job va se présenter comme étant une succession de dialogues ou de monologues, de prises de parole. Le personnage central, c'est Job, c'est lui qui souffre. Il ne comprend pas pourquoi il souffre. Et il va avoir des interlocuteurs. Alors il y a deux parties dans le livre de Job. La première partie, ça va être un dialogue avec trois amis. Trois amis qui viennent le soutenir. Il est là, il souffre, il a tout perdu. Il a perdu sa famille, il a perdu ses biens, il a perdu sa santé, il est malade. Il a tout perdu. Tout ce que vous pouvez imaginer comme souffrance, Job l'a subi. Tout ce que vous pouvez souffrir, si vous avez souffert la maladie, si vous avez souffert la séparation, le deuil, dites-vous que Job est passé par là, et lui, il a tout d'un coup. Et donc, ces trois amis viennent le réconforter, l'encourager, et c'est là qu'il va y avoir ce dialogue. Donc ça va correspondre à la première section du livre de Job. Ça va représenter les chapitres 3 à 27. Alors je mets de côté les deux premiers chapitres, c'est le prologue. On en discutera après, on verra, il y a un prologue au début, puis un épilogue à la fin. Mais donc c'est ça, il va y avoir ces trois amis, le chapitre 3 à 27. Et ensuite, une fois qu'il y aura ces trois amis, il y aura deux autres intervenants. Il y aura un quatrième ami. Et puis il y aura Yahvé à la fin quand même. Il y aura Dieu. Donc il va avoir cinq interlocuteurs en fait au total. Dans une première partie, il en aura trois. Dans la deuxième partie, il en aura deux. Donc cette première partie des chapitres 3 à 27, alors comment on fait pour dialoguer à trois ? Eh bien en fait, chacun prend la parole à tour de rôle, mais Job intervient à chaque fois. Il va y avoir une structure cyclique, c'est-à-dire... Voilà comment ça se présente. Job prend la parole, puis il a une réponse de son premier ami, qui s'appelle Eliphaz en l'occurrence, puis Job répond, puis le deuxième ami prend la parole, c'est Bildad, puis Job répond, puis un troisième ami prend la parole, il s'appelle Tsophar. Donc vous voyez comment ça marche. Et donc ça c'est un premier cycle, et ensuite on recommence. Vous avez trois cycles. Le premier cycle, c'est les chapitres 3 à 11. Donc Job, puis Eliphaz, puis Job, puis Bildad, puis Job, puis Tsophar. Et puis ensuite, on recommence. Chapitre 12 à 20, de nouveau, Job, puis Eliphaz, puis Job, puis Bildad, puis Job, puis Tsophar. Donc ça, c'est le deuxième cycle. Et puis enfin, troisième cycle, les chapitres 21 à 27. Même chose, Job, puis Eliphaz, puis Job, puis Bildad, puis Job, puis... Et puis là, en fait, non, il n'y a pas de Tsophar, d'ailleurs. À la fin, Tsophar ne prend pas la parole. Et donc, vous voyez, on a une structure cyclique. Alors, quand on lit le livre de Job, du coup, ça donne un peu l'impression de tourner en rond. C'est-à-dire que chacun prend la parole, et puis retourne à la case départ. Et chacun reprend la parole, et puis retourne à la case départ. Et chacun reprend la parole, et à la case départ. Et donc, plus vous avancez dans le livre de Job, Et plus vous avez justement ce sentiment de piétiner, de revenir à la case départ. Job dit, mais pourquoi je souffre? Et lui dit, mais c'est peut-être pour ça. Il dit, oui, mais non. Et puis il dit encore autre chose. Et puis ensuite, et on recommence. Donc, il y a ce côté répétitif qui est évidemment voulu. C'est-à-dire que Job s'interroge, il se pose des questions, il n'a pas de réponse à ces questions. Et les réponses qu'on lui donne ne le satisfont pas. Et donc, le temps passe et sa situation n'évolue pas. Sa souffrance est toujours là. Elle, il y a ce côté absurde, il ne comprend pas. Et donc, ce côté de tourner en rond est voulu parce que ça fait écho à ce que nous-mêmes, on peut ressentir dans notre vie quand on se pose des questions et qu'on n'a pas de réponse. Alors, c'est cyclique, donc circulaire, mais en même temps, si vous regardez attentivement, il y a quand même une progression. Donc, ce n'est pas tout à fait circulaire, c'est hélicoïdal. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec une. Ça tourne en rond, mais ça monte. Pensez à une spirale, quelque chose comme ça. Voyez. Donc, à la fois, il y a un côté circulaire répétitif, et en même temps, on sent qu'il y a une progression. Alors, quelle est cette progression? La progression, elle se fait au niveau de la perception que Job a de sa souffrance et du rôle que Dieu a joué dans sa souffrance. C'est-à-dire qu'au début, Job est assez ouvert. Évidemment, il est malheureux, il a cette souffrance, et il pose la question à Dieu. Regardez par exemple chapitre 3, donc c'est la première prise de parole de Job. Évidemment, il est triste, il préférait être mort. Verset 11, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère ?» Mais, verset 20, il s'interroge sur le rôle que Dieu a peut-être joué dans cette souffrance. « Pourquoi donne-t-il le jour à celui qui peine, la vie à ceux qui sont amers, qui attendent la mort sans qu'elle vienne ?» Autrement dit, il s'interroge par rapport à Dieu. Finalement, pourquoi est-ce que Dieu a permis que je naisse, si c'est pour vivre une telle vie ? Donc au début, il a vraiment cette interrogation. Et puis petit à petit, et là il n'accuse pas Dieu du tout, hein, mais petit à petit, son discours commence à se durcir. Regardez chapitre 6, verset 4. « Les flèches du puissant m'ont transpercé, et mon esprit en boit le venin. Les effrois de Dieu s'alignent contre moi. » Donc là, attention, il dit, cette souffrance, elle vient de Dieu. C'est lui, ce sont ses flèches, ce sont ses effrois. Et donc, il continue à questionner Dieu, et puis il s'adresse à lui. Et puis, cette question, c'est pas au début, « Oh, pourquoi ?» C'est « Mais pourquoi ?» On sent qu'il s'énerve. Chapitre 7, verset 12, « Suis-je une mère ou un dragon pour que tu postes une garde contre moi ? Quand je dis mon lit me consolera, ma couche calmera ma plainte, alors tu me terrifies par des rêves, tu me remplis d'effroi par des visions. » Il dit, voilà, c'est toi, tu me terrifies. Verset 19, « Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi ?» Verset 20, « Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des humains ? Pourquoi m'as-tu pris pour cible ?» Donc il dit, peut-être j'ai péché. Job dit, finalement, cette souffrance, peut-être que... Mais dis-moi, explique-moi. Et effectivement, petit à petit, les amis de Job, qui au début sont là pour le réconforter, lui disent, bah écoute, ça va passer, prends ton mal en patience, etc. Et petit à petit, le ton monte. Et les amis commencent à lui dire, mais écoute, finalement, si tout ça, si t'as tous ces malheurs, c'est peut-être pas un hasard non plus, c'est peut-être que t'as fait quelque chose, t'as péché. Et du coup, Job continue au chapitre 9, il en vient à discuter de la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire que, comment dire que Dieu n'est pas responsable de ma souffrance, si en même temps il est souverain? Donc, si c'est Dieu qui règne, si c'est Dieu qui contrôle tout, si c'est Dieu qui règne sur l'univers, bon, bah, à ce moment-là, il est responsable de tout, y compris du mal. Donc, voyez, chapitre 9, verset 2, comment l'homme serait-il juste avec Dieu? S'il voulait lui chercher querelle, il ne lui répondrait pas, même une fois sur mille. Sage ou puissant, qui lui résisterait impunément? Donc, autrement dit, Dieu fait ce qu'il veut, on ne peut pas. Verset 12, qui lui dira, que fais-tu? Autrement dit, qui sommes-nous pour dire à Dieu, mais que fais-tu? Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, et ce n'est pas nous qui lui disons ce qu'il fait. Seulement voilà, du coup, verset 22, qu'importe après tout, c'est pourquoi je dis, il supprime l'homme intègre aussi bien que le méchant. Autrement dit, Dieu supprime l'homme intègre aussi bien que le méchant. Verset 23, quand une destruction répond soudain la mort, il se moque de l'épreuve des innocents. La terre est livrée aux méchants, il voile la face des juges, si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Autrement dit, si ce n'est pas Dieu qui fait ça, qui d'autre ? S'il n'y a qu'un seul Dieu et qui règne sur l'univers, bah, ça peut être que lui. Donc il commence à hausser un peu le ton. Il commence à se lâcher, si vous voulez. Regardez chapitre 10. Je suis dégoûté de ma vie, je vais donner libre cours à ma plainte. Je vais parler dans mon amertume. Autrement dit, je vais donner libre cours. Au début, il était respectueux. Peut-être que si j'ai péché, bah, dis-le-moi. Voilà, il essaye un petit peu de... Tu vois, il s'interroge. Mais petit à petit, il commence à taper du poing sur la table. Il commence à se lâcher. Verset 15, chapitre 10, verset 15. « Si je suis un méchant, quel malheur pour moi. Si je suis injuste, si je suis juste, je n'ose lever la tête. » Donc, vous voyez, je ne sais pas. Peut-être je suis méchant, peut-être je suis juste, mais comme tu ne me réponds pas, comme tu ne me dis pas. Donc, il développe cet aspect de souveraineté, et à vrai dire, ça commence à l'excéder. Et puis surtout, il n'a toujours pas de réponse. Le temps passe, les dialogues, les trois amis, etc. Le cycle se développe. Et donc, il commence à vouloir... son agressivité vis-à-vis de Dieu l'amène à vouloir presque lui faire un procès. Et on commence à trouver un vocabulaire carrément de lié au litige, au tribunal. Chapitre 13, verset 3. « Je vais parler aux puissants, je veux défendre ma cause devant Dieu. » Alors, il veut défendre sa cause. Verset 6, « Écoutez, je vous prie ma défense, soyez attentifs au plaidoyer. » Donc, voilà, il est question de défense, de plaidoyer, de etc., etc. Il veut un procès avec Dieu. Il veut un dialogue avec Dieu. Il veut que Dieu lui parle. Verset 22, « Appelle, je répondrai, ou bien je parlerai et tu répliqueras. Quel est le nombre de mes fautes et de mes péchés ? Fais-moi connaître ma transgression et mon péché. Pourquoi te détournes-tu et me considères-tu comme ton ennemi ?» Donc voilà, il commence un petit peu à être de plus en plus agressif vis-à-vis de Dieu. Et du coup, plus lui-même est agressif, plus les paroles de ses amis sont de plus en plus dures. Chapitre 15, Eliphaz, verset 5, dit « C'est ta faute qui commande ta bouche. » Verset 6, « Ce n'est pas moi, c'est ta propre bouche qui te condamne. » Voilà, donc il dit clairement « C'est de ta faute. » Du coup, forcément, Job commence à avoir marre de ses amis. Chapitre 16, Job répondit « J'ai entendu beaucoup de choses semblables. Vous êtes tous de pénibles consolateurs. » Voilà, c'est « Merci, c'est sympa, vous venez pour m'accompagner, pour me consoler. » Puis alors, finalement, on finit par m'accuser en disant « Mais de toute façon, c'est toi, c'est de ta faute. Si ça t'arrive, c'est bien fait pour toi. » Donc... Y aura-t-il une fin à ces paroles qui ne sont que du vent ? Merci les amis, mais si c'est comme ça... Voilà. Verset 4, « Moi aussi je pourrais parler comme vous, si vous étiez à ma place. » Verset 6, « Si je parle, ma souffrance n'est pas soulagée. » Voilà. Donc il reste dans cette idée de procès. Verset 21, « Puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu ?» Donc il a besoin d'un arbitre, il veut un juge, il veut un arbitre. Alors le problème c'est qu'en même temps... Dieu est censé être l'arbitre, Dieu est censé être le juge, et donc comment est-ce que Job peut avoir un procès avec Dieu, où Dieu va être l'autre, mais en même temps, il faut que cet autre soit également l'arbitre. Donc, on sent la difficulté. Chapitre 19, Job continue à se plaindre du mutisme de Dieu. Verset 6, « Sachez que c'est Dieu qui me maltraite. » Vous voyez, il n'est plus en train de dire « Bon, voilà, je souffre et Dieu ne me sauve pas. » Ou « Je souffre et Dieu n'intervient pas. » C'est « Je souffre et cette souffrance, c'est Dieu qui me l'inflige. » Vous voyez la progression, hein, je veux dire, on observe, attendez, si vous êtes attentif, vous voyez bien la progression. « C'est Dieu qui me maltraite et qui m'enlève de son filet. » Verset 7, « Si je crie à la violence, personne ne répond. » Dieu est muet, Dieu ne répond pas. Pour lui, il se dit, et pour Job, c'est injuste. Ce silence de Dieu, cette souffrance que Dieu lui inflige et le silence qui l'accompagne, il finit par, à un moment donné, accuser Dieu d'être injuste. Chapitre 21, verset 7, « Pourquoi les méchants vivent-ils ? Pourquoi vieillissent-ils ? Pourquoi reprennent-ils même des forces ?» Verset 9, « Chez eux, aucune frayeur, c'est la paix. Le bâton de Dieu n'est pas contre eux. » Donc il dit finalement, les méchants, tout va bien pour eux, le bâton de Dieu n'est pas contre eux. Verset 12, ils chantent au son du tambourin, etc. Verset 13, leur jour s'achève dans le bonheur. En un instant, ils descendent au séjour des morts, c'est-à-dire ils ont une mort paisible, voilà, tout va très bien, alors que moi je suis à l'agonie, je souffre, etc. Donc il dit finalement, les impies, eux, tout va bien pour eux, alors que moi, qui suis juste, parce qu'au début Job s'interroge, il dit peut-être que je suis méchant, peut-être que j'ai un péché, il suffit de me le dire. Mais petit à petit, Job il finit par ne plus croire à cette théorie comme quoi sa souffrance serait due à sa propre faute. Job finit par dire non, je ne suis. Au début il disait bah peut-être je suis pécheur, puis Job petit à petit dit non. Moi, je suis pas méchant, je suis pas impie, je suis pas comme tous ces gens-là, et pourtant, eux, ils sont heureux. Donc, il finit par accuser Dieu d'être injuste. Alors, évidemment, pour ses amis, c'est insupportable, ce genre de discours. Chapitre 22, Eliphaz, il dit, mais t'es fou, verset 4, est-ce à cause de ta piété qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Est-ce que Dieu te ferait du mal, te châtierait parce que tu es pieux? Verset 5, n'y a-t-il pas beaucoup de mal en toi? Tes fautes ne sont-elles pas sans limite? Autrement dit, voilà, tu as beaucoup de mal, tes fautes sont sans limite. Vous voyez, les amis, c'est sympathique. Hein, c'est un jeu. Enfin bref, voilà. Et alors on lui dit, voilà, tous les péchés que Job a soi-disant fait, verset 6, tu prenais sans raison des gages à tes frères, autrement dit, tu étais malhonnête. Tu leur arrachais leurs vêtements, tu les laissais nus, tu ne donnais pas d'eau à l'homme épuisé, tu refusais du pain à l'homme affamé. Verset 9, tu renvoyais les veuves les mains vides, les bras des orphelins étaient brisés. Bon, alors, d'un seul coup, apparemment, Job est le pire des malfaiteurs. Ses amis commencent à l'accuser de tout ça. C'est catastrophique. Chapitre 23, Job exige de parler à Dieu. Verset 3, ah, si je savais où le trouver. Où est Dieu? Il se cache, hein. Si je pouvais accéder au lieu où il est installé, j'exposerais mon droit devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments, je connaîtrai les propos par lesquels il me répondrait et je comprendrai ce qu'il me dirait. Donc Job commence à être prétentieux en disant, moi j'ai pas peur, je veux parler à Dieu, d'abord j'aurai des arguments à lui avancer, et d'abord je comprendrai ce qu'il me dirait, je serai capable de répondre, etc. Donc il est convaincu d'être dans son droit. Verset 7, il y aurait là un homme droit qui argumenterait avec lui. C'est moi, hein, enfin c'est Job, je dis moi je serai là. J'échapperai pour toujours à mon juge. Il est convaincu que s'il peut exposer sa cause devant Dieu, il en sortira innocenté. Donc, vous voyez bien l'évolution où au début Job dit, bon bah ok, peut-être que j'ai péché, il suffit de me le dire, je vais me repentir. Mais là, Job dit pas du tout. Il est tellement convaincu, il est gonflé à bloc en disant, Dieu se cache. S'il se cache, c'est parce que c'est lui qui est injuste, c'est parce que c'est lui qui est coupable, c'est moi qui suis innocent, et si je le trouve, je vais lui prouver que j'ai raison. Verset 11, mes pieds se sont attachés à ses pas, j'ai gardé sa voix, je n'en ai pas dévié, je n'ai pas altéré les commandements de ses lèvres. Donc il dit, voilà, moi j'ai commis aucune faute. C'est Dieu qui est coupable, c'est Dieu qui se cache, c'est Dieu qui est passif. Chapitre 24, verset 9, on s'empare de l'orphelin par la violence. Autrement dit, et Dieu ne fait rien. Verset 12, les mourants soupirent, les victimes appellent au secours, et Dieu ne voit là rien de choquant. Verset 14, le meurtrier se lève, etc. Donc, il dit, voilà, c'est dans l'histoire, c'est Dieu qui est coupable. Alors évidemment, les amis, je passe les réponses des amis qui reviennent tout le temps disant, c'est de ta faute. Chapitre 26, Job répond à son ami Bildad, « Oh, comme tu sais bien venir au secours de celui qui n'a pas de force !» C'est de l'ironie, évidemment, en disant, bah, « Merci pour ta réponse, je suis sans force, et voilà ce que tu me racontes. » Bref. Et donc, Job conclut en disant, je suis convaincu d'être juste. Chapitre 27, verset 3, tant que je respirerai, tant que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne diront pas l'injustice, ma langue ne murmurera rien de faux. Jamais je ne vous donnerai raison. Autrement dit, ses amis qui l'accusent comme quoi c'est lui qui est coupable. Jusqu'à ce que j'expire, je ne renoncerai pas à mon intégrité. Je tiendrai à ma justice. Je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me reproche aucun de mes jours. Autrement dit, c'est pas juste, oui, bon, d'accord, j'ai fait un peu de mal comme tout le monde, mais je ne suis pas pire qu'un autre. Il finit par dire qu'il n'y a rien qui s'est jamais détourné d'aucun commandement, que s'il fait le bilan de tous les jours de sa vie, il a marché avec intégrité tous les jours de sa vie, il est parfait, quoi. Job finit par dire, je suis parfait, il n'y a absolument rien, il n'y a pas l'ombre du moindre péché chez moi. Donc voilà finalement le bilan, et là on est déjà au chapitre 27, hein, donc on a déjà fini ce cycle, ces trois cycles avec les paroles réciproques des uns et des autres. Donc voilà, vous voyez comment la situation non seulement tourne en rond, c'est-à-dire que Job n'a toujours pas de réponse, mais qu'il finit par être excédé, il finit par être agacé. Au début, il a un discours quand même assez humble, mais alors à la fin, c'est la catastrophe. Et c'est là-dessus que se termine cette première moitié du livre de Job. Autrement dit, on n'a pas de réponse. Et du coup, le chapitre 28 va servir de transition à la deuxième partie. C'est une sorte de synthèse, les chapitres 28 à 31, si vous voulez. C'est un monologue de Job, donc les amis, on n'en parle plus. Et par exemple, le chapitre 28 est focalisé sur la sagesse. C'est une sorte d'hymne à la sagesse. Alors certains disent, oh oui, ça a été ajouté là, tardivement, ça n'a rien à faire là. En fait, pas du tout. Je pense que le chapitre 28 s'interroge sur comment trouver la sagesse. La sagesse, c'est la science, si vous voulez. Hein. C'est la réponse à cette question. C'est-à-dire, la sagesse, c'est de donner sens à tout ça. La sagesse, c'est de comprendre cette souffrance, de comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Job souffre? Parce que Job ne sait toujours pas pourquoi il souffre. Et donc, vous avez un refrain qui revient, par exemple, verset 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Il cherche, Job cherche. Verset 20, la sagesse, d'où vient-elle? Donc, dans ce questionnement philosophique sur comment trouver une réponse à la souffrance quand Dieu ne parle pas, comment accéder à cette connaissance, à cette intelligence, à cette compréhension, c'est la fameuse sagesse qui est ici. Et puis le dernier verset, verset 28, est à mon sens un verset clé, donc c'est facile à retenir, Job 28:28. La crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est là l'intelligence. Autrement dit, il y a un côté un peu pragmatique de dire on ne peut pas toujours tout comprendre, mais il y a quelque chose qui doit demeurer, une constante, c'est la crainte du Seigneur et c'est la fuite du mal. C'est exactement ce que vous retrouvez dans le psaume 1 d'ailleurs, etc. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais là, il y a un principe fondamental. C'est-à-dire, indépendamment de ce qu'on peut ou de ce qu'on ne peut pas savoir, de ce qu'on comprend, de ce qu'on ne comprend pas, il doit y avoir une constante. Et cette constante, c'est la sagesse. Et c'est ça, la clé pour trouver la sagesse. Alors ensuite, les chapitres 29 à 31 sont une sorte de synthèse, enfin un résumé. Il explique ce qui se passait avant chapitre 29. Voilà, tout allait très bien pour moi. Et puis ensuite, voilà ce qui se passe, les souffrances que j'ai. Et puis ensuite, il résume le fait que, chapitre 30, verset 20, « Je t'appelle au secours, tu ne réponds pas ». Etc., etc. Et puis il en conclut que finalement que lui, c'est pas lui le problème, c'est pas Job qui a un problème. Chapitre 31, verset 6, que Dieu me pèse dans des balances justes et il saura mon intégrité. Donc, voilà, je suis intègre, je suis juste. Il dit c'est pas le cas du tout. Et puis verset 35, ah s'il y avait quelqu'un pour m'écouter, voilà mon dernier signe, que le puissant me réponde. Voilà. Et puis à la fin du verset 40, fin des paroles de Job. Donc on pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là en disant, voilà, finalement, vous avez les chapitres 29 à 31 sont une sorte de résumé de l'histoire qui n'a pas de solution, c'est-à-dire qu'il y a une question philosophique, cette question n'a pas de réponse, mais finalement, la philosophie de vie, c'est de malgré tout avoir cette crainte du Seigneur et de fuir le mal, etc., et peut-être se contenter de ça, finalement, à défaut d'avoir mieux. Alors le livre pourrait s'arrêter là. Je ne sais pas si ça vous plairait beaucoup comme fin, comme The End. Non, chapitre 32, en fait, on a la deuxième partie du livre qui commence. Et là, il y aura deux autres intervenants, parce que manifestement, les trois amis de Job, merci, mais non merci. Vient donc deux autres intervenants, un quatrième ami, Elihu, et puis il y avait un peu plus loin. Alors Elihu, moi j'aime beaucoup Elihu. En fait, je pense que c'est l'intervention d'Elihu qui apporte la vraie solution. En réalité, la vraie réponse, évidemment, l'intervention de Yahvé va aussi apporter une réponse, mais Elihu lui-même va apporter une réponse, et c'est, je pense, la réponse du livre de Job. Alors, c'est très drôle parce que je disais dans certains commentaires, y compris dans l'intro à l'Ancien Testament édité par Römer et compagnie, un livre très bien par ailleurs, moi j'ai contribué aussi plusieurs chapitres dedans, mais le chapitre sur Job dit l'intervention d'Elihu, c'est tardif, ça n'apporte rien. Et en fait, c'est pas vrai du tout, ça apporte tout. Vous allez voir. Donc, vient un certain Elihu, verset 2, fils de Barakéel, le bouzi du clan de Ram, se mit en colère. Il se mit en colère contre Job parce qu'il se disait plus juste que Dieu. Et là, il a raison. Vous voyez, on a une bonne synthèse. Finalement, Job dit, moi, j'ai rien à me reprocher alors que Dieu a des choses à se reprocher. Il se mit en colère contre ses trois amis parce qu'il ne trouvait rien à répondre. Voilà. Donc, finalement, les trois amis, ils n'ont servi à rien. Alors, j'aime bien. Alors, il parle, il prend la parole. Verset 6. Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai tremblé. Je craignais de vous exposer mon savoir. Je me disais, l'âge avancé sera parlé, le grand nombre des années fera connaître la sagesse. Autrement dit, Eliou nous explique qu'il était là tout le temps. Vous ne savez pas, mais en fait, il était là, en coulisses. Je dis en coulisses parce que ça se présente vraiment comme, imaginez une scène, hein, avec des gens, des interlocuteurs qui s'avancent, qui se reculent, etc. On est vraiment, c'est une pièce de théâtre. Il espérait que, forcément, les années étant, la sagesse, etc., la sagesse, c'est chapitre 28. Mais en réalité, verset 8, dans l'homme, c'est un souffle, c'est l'haleine du puissant qui lui donne l'intelligence. Autrement dit, c'est le souffle divin qui donne l'intelligence, un élément qui sera repris dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint. Verset 9, l'abondance des années ne donne pas la sagesse, ce ne sont pas les vieillards qui comprennent l'équité. Oups, mince. Alors, je vous renvoie, j'ai écrit un petit article dans un numéro de Foi et Vie de 2012 sur le clash des générations. C'est en rapport avec le thème des protestants forts à Strasbourg sur les générations à l'unisson, je ne sais plus comment ça s'appelait, comme ça. Voilà, je vais parler du clash des générations. Là, il y a un vrai clash. Donc, verset 12, je vous accordais toute mon attention, mais aucun de vous n'a convaincu Job. Aucun n'a répondu à ses discours. Verset 17, à mon tour, je veux répondre. Je veux exposer mon savoir, moi aussi. Verset 18, car je suis plein de propos, un souffle me presse au-dedans de moi. Au-dedans de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des outres neuves qui vont éclater. Autrement dit, il est impatient, il trépigne. Il dit, voilà, moi j'ai des choses à dire. Verset, chapitre 33, maintenant Job, écoute mes propos, je te prie, prête l'oreille à toutes mes paroles. Verset 5, si tu le peux, réponds-moi. Prépare-toi, tiens-toi devant moi. Autrement dit, accroche-toi, tu vas voir ce que je vais te dire, et tu vas voir si ce que je vais dire va te parler. Donc, chapitre 33, il y a le suspense, va-t-on enfin avoir une réponse? Et donc, il dit, il répond à Job. Job accuse Dieu de « Dieu est muet, Dieu est sourd, Dieu ne répond pas, etc. » Et il dit, verset 14, « Dieu parle cependant. » Il dit, non, tu dis que Dieu parle pas, mais c'est pas vrai. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Donc Eliou dit, tu dis que Dieu parle pas, mais c'est pas vrai, en fait, Dieu parle de plusieurs manières. Simplement, tu t'en rends pas compte, tu fais pas attention. Verset 15, dans un rêve, dans une vision nocturne, etc. Voilà, par exemple. Et puis, écoutez bien, verset 19, par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur son lit. Donc Dieu parle dans un rêve, mais Dieu parle par la douleur également. Autrement dit, il lui dit, tu dis que Dieu ne te parle pas, mais en fait, si Dieu te parle, il te parle par la douleur, par ta souffrance. La souffrance que tu subis, que tu es en train de vivre, en fait, c'est un moyen par lequel Dieu te parle. Et ça, Job n'y avait pas pensé. Là, vous avez la clé. Et il va y revenir trois chapitres plus loin. Alors, entre-temps, bon, Eliou va remettre les choses d'équerre, il va les remettre les choses en place. D'abord, il va dire à Job, tu dis que tu es juste, mais c'est pas vrai. Verset 7, chapitre 34, verset 7. Y a-t-il un homme semblable à Job qui boive la moquerie comme de l'eau, qui chemine dans la société des malfaisants, qui marche avec les méchants, etc. Car il a dit, il est inutile à l'homme de vouloir être agréé par Dieu, etc. Donc il a dit, tu dis que tu es juste, mais regarde ce que tu viens de dire. Regarde l'attitude que tu viens d'avoir. Regarde ton arrogance. Regarde, et ben voilà. Tu demandais qu'on te prouve ton injustice. Et ben, elle est prouvée. Tu viens toi-même de mettre en évidence ton impiété. Et puis ensuite, il contraste en disant que Dieu est juste. Verset 10, écoutez donc, homme raisonnable, Dieu serait-il méchant, le puissant, injuste? Jamais. Il paye de retour l'être humain selon ses actions. Il rétribue chacun selon ses voies. Autrement dit, Dieu est bien juste. Verset 36, que Job soit donc éprouvé jusqu'au bout, puisqu'il répond comme les hommes malfaisants. Car il ajoute à son péché la révolte. Il bat des mains avec arrogance parmi nous, il multiplie les discours contre Dieu. Donc, Eliou répond à la fois sur... Parce que Job a deux éléments. Job, il dit d'une part, Dieu ne me répond pas. D'autre part, je suis juste. Je ne vois pas ce qu'on me reproche. Donc Job dit, je ne vois pas ce qu'on me reproche et Dieu ne me dit rien. Et il lui dit, tu ne vois pas ce qu'on te reproche? Eh bien si, justement, ton arrogance, ta façon de parler, tu viens de te trahir, tu viens de montrer justement que tu n'es pas si juste que tu le crois. Et puis ensuite, tu dis que Dieu ne te parle pas. Ben, en fait, si précisément, c'est par la souffrance que Dieu te parle. Chapitre 35, verset 1, Eliou reprit, « Penses-tu être dans ton droit? Peux-tu dire, je suis plus juste que Dieu ?» Mais tu te rends compte, tu t'écoutes parler. Chapitre 36, Eliou revient sur le fait que Dieu parle. Verset 15, Il, c'est-à-dire Dieu, délivre l'affligé par son affliction même. Et c'est par l'oppression qu'il les informe. Donc on avait déjà vu ça en 33-19, chapitre 33, verset 19, et là, en chapitre 36, verset 15, il revient là-dessus. Alors, la réponse d'Éliou est brillante, puisque si vous regardez la situation de départ, Job souffre, il interroge Dieu pour avoir une réponse par rapport à cette souffrance. Il dit « J'aimerais que Dieu me parle par rapport à ma souffrance », alors qu'en fait, Dieu lui parle par la souffrance. Et puis ensuite, Job dit « Mais je suis juge, j'ai pas péché, j'ai pas fait de faute, on m'accuse, etc. Je vois pas du tout ce qu'on me reproche. » Alors qu'au moment même où il dit ça, il vient démontrer son impiété. Et donc Éliou conclut par son discours, hein, donc le discours d'Éliou, c'est chapitre 32 à 37, il conclut par la souveraineté de Dieu, chapitre 36-37, chapitre 36, verset 26, « Dieu est grand, mais nous ne le comprenons pas. » Chapitre 37, verset 5, « Il fait de grandes choses que nous ne connaissons pas. » Verset 14, « Job, prête l'oreille à cela, arrête-toi pour comprendre les actes étonnants de Dieu. » Donc voilà l'intervention d'Éliou. Et Éliou, de fait, répond vraiment à cette question que Job se pose. La souffrance que Job a subie avait pour vocation à lui montrer ce qu'il y avait dans son cœur. C'est-à-dire que Job, qui se considérait comme juste, a eu besoin de passer par cette souffrance pour comprendre qu'il n'était pas si juste que cela. Job, qui pensait avoir confiance en Dieu, servir Dieu, être pieux, etc. En fait, pas du tout. Il est capable d'une arrogance, il est capable d'accuser Dieu. Manifestement, il ne connaît pas bien Dieu. Cette souffrance est l'occasion pour Job de mieux se connaître lui et de mieux connaître Dieu. Et d'ailleurs, il est temps de passer à l'intervention d'Yahvé, chapitre 38. Pour l'instant, Dieu n'a pas parlé. On est quand même au chapitre 38, hein. Et c'est seulement en ce moment-là que Dieu va prendre la parole. Yahvé répondit à Job du milieu de la tempête. Bon, alors déjà, on est dans la tempête, hein, ça commence mal. Qui est celui qui... Non, je ne vais pas vous le dire comme ça, mais bref. Imaginez les tonnerres, etc. Enfin bref. Qui est celui qui obscurcit mes projets par des propos sans connaissance? Bon, alors déjà, c'est ça. Déjà, qui vient me casser les pieds? Quel est le crétin qui vient me casser les pieds? Je traduis en français moderne. Tiens-toi prêt, je te prie, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Alors le côté ironie de Dieu qui dit, bon, écoute, je vais t'interroger, tu vas m'instruire. Toi, Job, tu vas m'apprendre quelque chose. Toi, Job, tu vas me parler. Et donc, Dieu, alors là, imagine cette rencontre, mais imagine, enfin, je sais pas, la scène, quoi. Dieu arrive sur scène. Verset 4, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu es intelligent. Là, il remet Job à sa place. Job dit, voilà, je suis plus juste que Dieu, je sais mieux que Dieu, je vais démontrer à Dieu que j'ai raison, je vais lui expliquer, je vais faire comprendre à Dieu qu'il a tort et que j'ai raison. Voilà ce que Job disait quand même, faut le faire. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu? Qui a tendu sur elle le cordeau? Dans quoi ses bases sont-elles enfoncées? Qui en a posé la pierre angulaire? Donc, il dit, voilà, c'est toi qui as créé l'univers, c'est toi qui as créé la terre, c'est toi qui as créé les étoiles, etc. Voyez un petit peu l'interrogation ironique. Verset 17, les portes de la mort ont-elles été mises à découvert pour toi? As-tu vu les portes de l'ombre de mort? As-tu appréhendé l'étendue de la terre? Dis-le, si tu sais tout cela. Donc il dit à Job, ben vas-y, je suis là, tu voulais me parler, je t'écoute, vas-y, dis-moi tout ça. Verset 19, où est donc le chemin où demeure la lumière? Et les ténèbres, où donc résident-elles pour que tu puisses les saisir à leurs limites et comprendre les sentiers de leur habitation? Verset 21, tu le sais, n'est-ce pas? Car alors tu étais déjà né, le nombre de tes jours est grand. Job, tu étais déjà vivant à l'époque où j'ai créé l'univers. Et donc voilà, donc il y a toute une série, le chapitre 38 s'intéresse à la création. Donc on est sur la nature, l'aspect cosmologique, les étoiles, la terre, les reliefs, les mers, les océans, là au verset 22 la pluie, enfin la neige, pardon, verset 26 la pluie, etc., etc. Bon, verset 34 les nuages, verset 35 les éclairs, etc. Et puis ensuite, Dieu s'intéresse au monde animal. Verset 39, est-ce toi qui chasses une proie pour la lionne? Verset 41, qui prépare au corbeau sa pâture? chapitre 39, verset 1er, « Connais-tu le temps où les bouquetins font leurs petits ?» Verset 5, « Qui a mis l'onagre en liberté ?» Verset 9, « Le roc acceptera-t-il d'être à ton service ?» Verset 13, « L'aile des autruches, etc. » Les questions du cheval, verset 19, du criquet, verset 20, de l'épervier, verset 26, du vautour, verset 27, etc. Donc on parcourt le monde animal pour dire, est-ce que c'est toi qui règnes sur le monde animal ? Donc cette réponse de Dieu, c'est une réponse par rapport à sa souveraineté. En disant, oui, je suis souverain. Oui, c'est moi qui ai créé l'univers. Et donc, à ce titre, j'ai pas de leçon à recevoir. Donc, si tu crois vraiment que je suis souverain de l'univers, comment ça se fait que tu me parles comme ça? Du coup, Job répond, chapitre 40, verset 3, Job répondit à Yahvé, je suis peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Autrement dit, il dit, oups, j'ai trop parlé, je me tais. Il y a une deuxième intervention divine, chapitre 40, du coup, où là, il va faire mention d'un certain nombre de monstres, Béhémoth, verset 15, Léviathan, verset 25, qui sont en fait les symboles du chaos qui peut régner sur la planète, ça renvoie à des textes mythologiques, etc., et notamment tout ce qui peut menacer la création. Donc, au début, Dieu a dit, c'est moi qui ai tout créé, et c'est moi qui donne cet équilibre dans la nature, y compris avec le monde animal. Chapitre 40, non seulement c'est moi qui l'ai créé, mais c'est moi qui suis aussi capable de le préserver, de le défendre, de le protéger. Donc, aie confiance en moi. Du coup, Job répond à nouveau. Vous voyez, il y a ce dialogue, hein. Dieu parle, Job répond, et Job répond en une phrase. Dieu parle, Job répond. Chapitre 42, Job répondit au Seigneur, je sais que tu peux tout et qu'aucune pensée ne t'échappe. Ah, bon, ben déjà ça change, puisqu'apparemment tout à l'heure Dieu ne comprenait rien. Donc il peut tout, il est omnipotent, aucune pensée ne t'échappe, il est omniscient. J'ai parlé sans comprendre de choses étonnantes qui me dépassent et que je ne connais pas, verset 3. Donc Job reconnaît en fait que voilà, c'était quelque chose qui lui échappait et qu'il aurait mieux fait de se taire. Verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu, c'est pourquoi je renonce, je me repens sur la poussière et la cendre. Donc il se repent, il reconnaît que c'est bien lui qui est en tort. Et puis le verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Et là, vous avez la clé, cette révélation. Job a cette révélation de qui Dieu est. Ça n'empêche qu'il a quand même souffert, hein. Ça n'enlève pas la souffrance qu'il a eue, ça n'enlève pas ce par quoi il est passé. Mais en fait, c'est précisément, si on suit Élihu, ce par quoi il est passé qui lui a permis d'avoir cette révélation divine et cette proximité avec Dieu. Et ça, c'est une véritable réponse à cette question de la souffrance. Quand nous souffrons, et là, je reviens à nous aujourd'hui, maintenant, si nous lisons ce texte, je peux prendre mon cas particulier dans ma vie, les moments où j'ai vécu des souffrances que je ne souhaite à personne, ce sont aussi ces moments où j'ai pu me rapprocher de Dieu, où j'ai pu avoir une révélation plus grande encore de qui Dieu est, de sa souveraineté, de sa capacité aussi à prendre soin, à protéger et avoir cette confiance au-delà de ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire même dans des situations qui nous dépassent, des situations qui nous échappent. Et donc d'avoir cette révélation supplémentaire par rapport à Dieu et aussi par rapport à nous-mêmes. Parfois, on a peut-être tendance à se considérer un peu trop juste, on est peut-être un peu prétentieux, alors qu'en fait, on n'est peut-être pas si juste que cela. Donc voilà pour le livre de Job. Alors j'ai mis de côté le prologue et l'épilogue qui nous mettent en scène, en fait, qui nous racontent pourquoi ça s'est passé. Au début du livre de Job, en fait, il y a ce conseil des dieux, justement, et Dieu se vante de Job en disant « Mais y a-t-il un serviteur comme lui sur toute la terre ?» Il n'y en a pas d'autre. Autrement dit, justement, il vante les qualités de Job. Et Satan se présente en disant, chapitre 1, verset 9, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ?» etc. Finalement, il est sympa avec toi parce que toi, tu le bénis. Mais si tu ne le bénis plus, alors Job ne sera peut-être pas aussi bien que ça. Et du coup, Dieu autorise Satan à affliger Job. Il perd tout. Et l'épilogue répond à cela. Du coup, Dieu rétablit, c'était une épreuve en fait, c'était un test. Et du coup, Dieu rétablit la situation de Job en double, il a tout en double, etc. Bon, je trouve que ça fait un peu... Enfin, moi, je ne suis pas hyper convaincu par ces histoires de... Enfin bref, il a deux fois plus de bétail, etc. Ça, c'est pour la petite histoire. C'est l'encadrement, si vous voulez, de ce traité philosophique.
Quand Job dit, je sais que mon collègue est vivant.
Oui. Alors oui, c'est ça. Alors, on est dans ces passages de l'ambiguïté où Job commence à demander. Il veut un procès contre Dieu et en même temps il veut un arbitre. Mais cet arbitre, c'est Dieu aussi. Donc comment est-ce que Dieu peut être... Vous voyez, chapitre 16, verset 19, « J'ai un témoin dans le ciel, j'ai un répondant dans les hauteurs, mes amis me traitent avec insolence, c'est Dieu que j'implore par mes larmes, puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu ?» Alors qu'il vient de dire que « J'ai un témoin dans le ciel, c'est Dieu, que Dieu puisse Dieu être l'arbitre entre l'homme et Dieu. » Donc, est-ce qu'on est dans un milieu polythéiste, on imagine qu'il y a notre Dieu, etc. Qui est ce rédempteur? Est-ce que c'est Dieu? Enfin, voilà, il y a effectivement une... Il y a des questions qui sont très complexes. Alors, ça nous renvoie au contexte dont je n'ai pas parlé de la rédaction du livre de Job, c'est-à-dire de quand est-ce qu'il a été rédigé, par qui. Je vous le dis en 30 secondes. En réalité, le livre de Job ne fait aucune allusion à la Judée. On n'est pas en milieu judéen, on n'est pas en milieu israélite. On n'est pas à Jérusalem, on n'est pas rien du tout. Les seuls noms qui nous donnent des indications géographiques, c'est la mention des Sabéens, chapitre 1, verset 14, des Chaldéens, chapitre 1, verset 17. Au chapitre 6, verset 19, il est question à nouveau de Saba, mais également de Théma. Donc tout ça, c'est l'Arabie, hein, Saba, Théma, etc., c'est la péninsule arabique. Et les Chaldéens, c'est la dynastie en place à Babylone, au 6e siècle avant notre ère, avec notamment un roi, Nabonide, dont il est fait allusion dans le livre de Daniel, on a changé son nom, mais c'est lui, qui part vivre 7 ans ou 10 ans selon les sources, à Théma, justement, en Arabie. Donc le contexte, c'est le contexte de l'Arabie. Donc finalement, ce livre... C'est un livre qui est un livre arabe. C'est pas un livre, c'est pas une littérature du judaïsme, en fait. À mon avis, ce texte n'a pas été rédigé en milieu judéen. D'ailleurs, on trouve pour désigner Dieu un terme en hébreu, Eloah, qui est le singulier de Elohim, qu'on trouve pratiquement nulle part ailleurs dans la Bible. Là, dans un milieu, on dit Eloah. Or, précisément en arabe, c'est Ilah. Quand on dit Allah, c'est Al-Ilah. Et c'est la forme longue, Eloah, au singulier, qui n'est pas attestée en hébreu. Et je pourrais continuer en parlant de l'hébreu du livre de Job, qui n'est pas de l'hébreu finalement. Enfin, c'est une forme d'hébreu, mais ce n'est pas de l'hébreu standard. On s'arrache les cheveux quand on essaie de comprendre l'hébreu de Job. C'est un dialecte autre que l'hébreu d'Israël et de Juda.
Donc, c'est par exemple le Dieu qui a persécuté le Dieu qui sauverait, c'est interprété dans un contexte.
On peut se poser la question, c'est-à-dire qu'il y a une tension entre l'idée d'un polythéisme et en même temps d'un Dieu unique qui est donc souverain. S'il est responsable de tout, c'est lui qui fait le mal, il ne peut pas y avoir un deuxième Dieu. Et en même temps, on voit l'introduction de Satan, etc., etc. Donc on voit, il y a des conflits, disons, il n'y a pas d'homogénéité. C'est-à-dire, on sent des tensions à l'interne sur ces questions de souveraineté, d'intervention, etc., etc. Voilà. Je signale que Job, d'ailleurs, est mentionné comme un, dans le livre d'Ézéchiel, qu'on a vu il y a le mois dernier, dans Ézéchiel 14, on dit, il est question de trois personnages, il est question de Noé, de Daniel et de Job. Si vous regardez Ézéchiel 14:14. Et il est question de Noé, Daniel et Job. Alors Noé, vous le connaissez, Job, vous le connaissez, Daniel, c'est pas le Daniel du livre de Daniel, c'est un autre Daniel, et ces trois personnages mythologiques ont en commun de chercher à sauver leurs enfants. Job, il fait des sacrifices pour expier les fautes de ses enfants, Noé, il sauve ses enfants du déluge, etc., etc. Et dans Ézéchiel, il est question de ça, en disant, même ces trois hommes ne pourraient sauver leurs enfants. Ils pourraient se lever, si vous relisez Ézéchiel 14, vous verrez. Et donc ça veut dire que, et ces trois hommes ont des enfants à sauver, ou qu'ils essayent de sauver, et ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, qui sont mentionnés, ne sont pas israélites. Le Daniel en question, c'est un Daniel qu'on trouve notamment à Ougarit. Donc j'insiste bien sur le fait que Job n'est pas israélite, n'est pas judéen. C'est un texte qui a été importé dans la littérature du judaïsme ancien. Voilà, on s'arrête là pour le livre de Job. Ce serait fascinant de pouvoir étudier davantage, mais il faut continuer. La semaine prochaine, on attaque les proverbes. Bonne semaine à tous. Et joyeuse Pâques.